bienvenue à toutes et à tous dans Multijoueur, votre rendez-vous jeu vidéo sur Tech & Co. Eh bien, on est de retour pour avoir une actu extrêmement chargée. On vous l'avait dit, c'est la semaine où il y a énormément de sorties de jeux de premier plan. Et pour en parler aujourd'hui avec moi, Marie Palot. Comment
Bonjour.
Ça va, Marie?
Ben, ça va très bien. Merci de m'accueillir sur ce plateau.
Mais je suis ravie de t'avoir.
C'est
grand spécialiste pop culture. Eh, il est pas beau notre plateau?
C'est très très beau. C'est
ouais.
très beau.
Moi, je suis ravie que ça te plaise. En tout cas, tu es la bienvenue.
On est bien à la maison.
On est... Et tu es ici chez toi, tu le sais.
C'est gentil.
Et face à toi, Benjamin Haneke. Alors, comment ça va?
Ça va super. Merci pour l'invitation. Je suis vraiment ravie d'être ici et de pouvoir discuter un petit peu avec vous. Et c'est vrai que l'accueil est hyper chaleureux ici. Donc,
on est sympa. Hein. Un nouveau représentant de la team JVcom avec nous. Eh bien, avec ces deux charmantes personnes qui viennent là, qui inaugurent à leur tour le plateau, on va avoir une actu à chaud très, très chargée. Vous allez voir, on a plein de choses à se raconter. Alors, même si on est en majorité des filles, on va laisser la place d'abord à ce seul monsieur pour nous parler d'Hades 2, parce que Hades avait cartonné. Hades 2, tout le monde l'attend, enfin beaucoup de joueurs l'attendent. Et toi, tu as eu de la chance, tu as pu te faire le petit test technique.
Mais c'est ça, on a eu un peu de chance. On a reçu un code justement il y a quelques jours pour essayer Hades 2, qui est un des jeux certainement les plus attendus de cette année. Déjà parce que le premier Hades avait fait sensation à l'époque, en fait, pour tout son côté exploration de la mythologie, aspect roguelite qui cartonnait à l'époque. Et on est vraiment dans une continuité qui est encore plus abouti, je trouve, en fait, en termes de direction artistique. En fait, on voit qu'il y a beaucoup de soin qui a été apporté au jeu cette fois, des mécaniques de jeu qui ont également évolué. En fait, cette fois, on incarne Mélinoé, qui est la sœur de Zagreus, et qui, encore une fois, dans une histoire de famille, va devoir lutter contre Chronos, qui est le titan, le roi
Chronos,
des titans.
C'est plus,
c'est titan qui peut, c'est ce titan
bouffe ses enfants, lui, non?
Enfin, il y a toujours un problème.
Un mec bien, ça.
Il y a toujours un problème au niveau de la famille dans ces jeux-là.
Des problèmes familiaux, hein, voilà. Mythologie.
Et du coup, oui, on incarne donc Mélinoé, qui cette fois-ci aura le droit à des attaques chargées, qui s'appellent des attaques Oméga. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a une jauge de mana qui est introduite et qui permet justement d'effectuer des sorts un petit peu plus puissants. Mais sans quoi, en fait, on retrouve toujours ce système de bienfaits, en fait, où à chaque fois, on vide une salle de ses ennemis et on progresse soit dans une voie qui nous est imposée, soit qui nous laisse le choix, en fait, pour récupérer ensuite des récompenses pour augmenter nos caractéristiques.
Est-ce que c'est dans la continuité du premier au niveau vraiment ambiance?
On est vraiment dans la continuité. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui a été plus abouti cette fois. En fait, on voit que la direction artistique a été un petit peu remaniée, on voit que les décors sont peut-être un peu plus sombres, mais en fait on arrive vraiment en terrain conquis, hein, vraiment en terrain connu, et on reprend vite les automatismes. Et c'est ça, en fait, qui est assez grisant avec Hades, c'est qu'ils arrivent tout de suite à imposer un style de jeu, une expérience, et qui est vraiment très 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 addictif pour le coup.
La séquence que tu as faite là, c'est quoi? C'était une séquence de début? C'était un espèce de melting pot de choses qu'on va trouver?
En fait, on a pu découvrir la première zone du jeu. En fait, on avait plusieurs salles à vider jusqu'à arriver à un premier boss. Et en fait, le test technique nous permettait de le battre jusqu'à 5 fois pour découvrir un petit peu des éléments de lore, pour découvrir des nouveaux aspects du roguelite, des ressources à récupérer pour augmenter en fait le hub central, parce que le côté roguelite, ça passe aussi par ça, en fait. C'est-à-dire que tout au long de nos runs, de nos parcours, on récupère des ressources qui permettent justement d'améliorer notre hub, de débloquer des personnages, des items précis, enfin...
Marie, toi, c'est ta cam ou pas Hadès?
Écoute, je suis fan de mythologie antique, donc je suis passée à côté, j'avoue. Je jouais à d'autres trucs à l'époque et c'était un peu l'aspect roguelite qui me freinait. Je me disais, oh là là, je crois que ça va me décourager. Et j'ai vu en fait que dans le 1, le héros s'appelait Zagreus, qui est un nom qui... Donc, tous les personnages existent dans la mythologie.
Oui, tout à fait.
Mais c'est un nom assez particulier parce que c'est un personnage qui est très Diane Retry.
Taillé pour le jeu vidéo, quoi.
Qui est taillé pour le jeu vidéo, qui fait partie d'un courant religieux dans la mythologie antique. Il a vraiment une histoire un peu particulière et je me suis dit, waouh, ok, les créateurs du jeu sont allés fouiller vraiment hyper loin dans toutes les petites mécaniques et les archives de la mythologie, et ça m'intrigue.
Pas juste prendre de la mythologie pour faire une toile de fond, quoi. Ça, ça c'est
pas
mal.
C'est pas juste Aphrodite qui va manger la pomme de machin, tu vois, c'est, ça a l'air poussé, fouillé, bien écrit, ça me plaît.
C'est attendu pour quand, Benjamin, ce jeu ?
Pour le moment, c'est annoncé pour 2024, donc à la fin du test technique, ils annonçaient quand même que la date de l'accès anticipé était très proche, sans nous dire vraiment de manière plus précise, mais au vu de ce qu'on a pu essayer, de ce qu'on a joué en fait dans ce test, c'est vraiment très solide et ça ne m'étonnerait pas que ça sorte dans les prochains mois.
Donc voilà, Hades 2, on en reparlera quand le jeu sortira pour de vrai. Peut-être bientôt, si on en croit Benjamin. Autre sujet que je voudrais qu'on aborde avec vous, il y avait la semaine dernière les Nintendo Indie World. Je ne sais pas pourquoi je dis les, c'est le, ou je ne sais pas, l'événement en ligne. Je voudrais qu'on en parle parce qu'on n'en parle pas assez de Nintendo et de la Switch comme plateforme de jeux indé. Et on a repéré des petits jeux qu'il faudrait suivre précisément. Alors, je vais commencer par le mien parce que ça m'a fait rire. C'est Little Kitty Big City. C'est un jeu qui sort le 9 mai. Je ne sais pas si vous avez vu les images, mais alors pour moi, c'est un peu ce que j'avais bien aimé dans Stray, le jeu d'un petit chat tout mimi qui est là, croisé avec les oies insupportables de Untitled Goose Game qui font que des conneries et qui sont là pour vous pourrir la vie. Est-ce que j'ai bien résumé ou pas ?
Je pense que le résumé est impeccable.
Ah, c'est ça. On est un chat qui se balade dans une grande ville et peut faire n'importe quoi. Et je trouve ça absolument génial.
Bah c'est vraiment la vraie vie d'un chat, finalement.
Et bah voilà, on est d'accord.
Être mignon, mais en même temps...
Vous le custo avec des têtes d'endives ou je ne sais quoi aussi, c'est n'importe quoi. Mais voilà. Donc ça, c'était ma petite reco. Ça sort quand même le 9 mai, donc ça va arriver très vite. Et j'avoue que j'ai un peu hâte d'y jouer. Disponible sur Switch, Xbox, et surtout, ce sera sur le Game Pass Day One et sur PC, évidemment. Toi, Benjamin, c'était Europa qui t'a plu.
Oui, c'était Europa. Il y avait cette petite vibe Ghibli, en fait, dans la direction artistique. En plus, il faut savoir que c'est un petit projet, en fait. Enfin, un développeur et un studio vraiment à taille très humaine. Et voilà, il y a ce petit côté cosy, en fait, qu'on oublie un petit peu sur les jeux indés de la Switch qui permettent vraiment de se poser et vraiment de passer un petit moment hors du temps où là, par exemple, le héros passe son temps à flotter grâce à son jetpack sur une lune qui a été terraformée et on peut découvrir en fait des décors très verdoyants, très chatoyants. Et dans la direction artistique, ça m'a fait un petit peu penser au château dans le ciel de Miyazaki.
Ouais. Ah. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça te plaît bien, ça, Marie ?
Écoute, ça me plaît bien. Puis même les couleurs, ça me fait penser à du Zelda... Et à un jeu que j'ai oublié.
Planet of Lana. Moi, je trouvais qu'il y avait un petit côté un peu. Alors, c'était un peu plus aquarelle, Planet of Lana, mais il y a ce côté un peu peaceful. Je suis d'accord avec toi.
C'est très, très joli. Hein.
Mais je trouve qu'on oublie de temps en temps, justement, que sur la Switch, il n'y a pas que des jeux. Je schématise, mais il n'y a pas que des jeux Nintendo, où il y a de plus en plus de gros jeux. Mais ils ont une force indé aussi. Alors, dans un autre registre total, moi, j'ai bien aimé Lorelei and the Laser Eyes, pareil, qui sort, là, qui arrive le 16 mai. Ça, c'est parce que, les gens le savent, j'ai un énorme faible pour les jeux Annapurna, que je trouve toujours complètement barré. Et celui-ci a l'air vraiment... Je trouve... Je ne sais pas si vous avez vu ce que c'était. Il y a un côté très lynchien, très David Lynch, dedans. C'est un jeu d'enquête dans un univers complètement surréaliste, un peu glauque, un peu cauchemardesque, un peu bizarre. C'est une nana... qui est sommé, on ne demande même pas son avis, d'aller dans un hôtel d'Europe centrale pour répondre à des gens qui l'appellent et elle va devoir enquêter. Je trouve ça hyper dark, je ne m'attendrais pas du tout à voir ce genre de jeu sur la Switch, pour le coup. C'est que des puzzle games.
Ça, c'est ma cam.
Ah, mais t'as vu ?
Ah, j'adore.
Et ça, alors, pour ceux qui voient les images, il y a vraiment ce côté un peu puzzle. Il y a une ambiance, on a vu que le trailer, on n'y a pas joué, j'avoue, mais il y a quelque chose d'un peu bizarre. Je ne sais pas si vous aviez joué à un jeu qui, moi, j'ai adoré, qui s'appelle Sayonara Wild Hearts.
Ah oui.
C'est Simogo, c'est le même...
C'était incroyable, ne serait-ce que pour la BO.
La BO, on est d'accord.
La BO était exceptionnelle.
Je recherche toujours le vinyle de la BO. Et il y a ce côté donc très éthéré, très, mais beaucoup plus dark. L'autre était très lumineux, très néon. Je trouve que voilà, on n'y a pas assez, on n'en parle pas assez de la Switch comme plateforme, en plus mobile, pour ce genre de petits jeux. Et alors toi, il y a un autre jeu qui t'avait fait rire.
Écoute, c'est un peu aussi du puzzle game, des enquêtes, mais c'est un détective qui est un canard, en fait, qui recherche un salami perdu.
Alors moi, j'avoue, je suis passée à côté de The Duck Detective, The Secret Salami.
Exactement. La bouffe a disparu, ça, c'est un vrai motif d'enquête, ça, tu vois.
Ça, c'est n'importe quoi. Mais bon, voilà, si vous avez l'occasion, regardez, il y avait, je crois, une grosse quinzaine de jeux sur ce Indie World de Nintendo et donc nos recos Europa, mais alors courant 2024, faudra l'attendre aussi comme Hades 2. Mon petit jeu du chat, Little Kitty Big City, qui arrive le 9 mai. Et Lorelai and the Laser Eyes, le 16 mai. Et alors ton Dog Detective...
Le 25, je crois, 25 mai.
C'est ça, ils arrivaient tous très vite en plus.
Ouais.
Donc pas mal. Bon, changement de planète, changement d'univers, chers amis. Je vais vous emmener dans l'espace. Non, pas vraiment, on va revenir sur Terre, mais alors dans un drôle d'état. Je voudrais qu'on parle de la sortie de la semaine, enfin l'une des sorties de la semaine, qui est Stellar Blade. Alors pourquoi ce jeu ? Parce qu'on en a beaucoup parlé pour de multiples raisons, et je trouve que c'est un jeu intéressant. Déjà, c'est une exclusivité PS5. Sony et PlayStation ont énormément communiqué dessus. Vous y avez joué aussi, comme moi. J'ai une première question. Cache d'entrée, est-ce que ça méritait d'être une exclusivité PS5 ? Voilà, plus personne ne parle.
C'est une très bonne question.
Ah, je m'attendais à tout sauf à
ça. On attaque. Bon, non, alors, ok. Bah, y a plus... Qui raconte ce que c'est ?
Tu veux raconter ou...
Oui, bah, ouais, je peux y aller. Je peux y aller très,
comme ça, on fera l'analyse après.
En fait, on incarne le personnage de Eve, qui est une guerrière, on va dire, qui fait partie d'un escadron aéroporté qui a pour mission en fait de sauver la Terre, qui est menacée par les Naitiba, qui sont les créatures qu'on peut voir actuellement à l'écran.
Très moche, très dégoûtant.
Oui, tout ce qu'on veut. Qui, au fil de son parcours, en fait, sera amené à aider le dernier bastion, on va dire, de l'humanité, en effectuant des quêtes et en suivant une trame principale qui l'enverra dans différents coins de ce monde dévasté.
C'est pas mal.
Il est bien.
Et elle est aidée parce qu'elle s'appelle Eve, donc forcément elle est aidée par Adam.
Par Adam.
Ah, on reste hein, toujours. Après la mythologie, on se met tout ça. Premier avis pour vous. Alors, c'est le premier jeu. Console d'un studio qui s'appelle Shift Up, qui est un studio coréen spécialisé avant tout dans les jeux mobiles. C'est quand même deux écoles différentes, mine de rien, qu'on le veuille ou pas. Studio coréen, pays du jeu mobile, qui déjà s'aventure sur du jeu console, porté par PlayStation qui est allé le chercher. Est-ce qu'honnêtement, on s'attendait à voir un jeu à visée mondiale de ce type porté par PS5 ?
Moi, j'ai la sensation qu'il y avait des lieux communs qui étaient assez doudous. C'est-à-dire que quand on a été un joueur de Nier, Nier Automata, Bayonetta, qu'on a aimé Alita, Battle Angel, qu'on a lu Gun, bon, je veux dire, on est devant ce jeu, on ne peut que aimer, quoi.
Tout ce que tu viens de dire, ce sont les inspirations, alors très claires, du créateur. Hein. Du créateur du jeu, il le dit. C'est Alita.
Ouais, il l'a dit récemment dans une interview.
Elle saute aux yeux, en fait. C'est vraiment tout ce qu'on attend quand on a été justement biberonné au manga, au cyberpunk, et puis à tous ces jeux qui ont été incroyables, comme ceux de Yoko Taro. Je trouve qu'il y a vraiment la même vibe. Hein. On dit inspiration, mais des fois, bon, Adam et Ève, voilà.
Après, environnement apocalyptique. Hein, si vous aimez, en ce moment, vous n'aimez pas les environnements post-apocalyptiques, entre la série Fallout, les jeux en tout genre...
Oui, il n'y a que ça en ce moment.
Il n'y a que ça.
Il y a peut-être un message derrière.
La fin du monde arrive.
Mais le développeur nous avait justement confié, en fait, on lui avait posé la question, et effectivement, en fait, le livre de la Genèse a vraiment été une source d'inspiration pour créer cette aventure.
Mais moi, là, alors, je suis comme vous, j'y ai joué. Je trouve que il y a exactement tout ce que tu dis, c'est sa force et sa faiblesse.
Oui.
C'est-à-dire que j'ai retrouvé beaucoup d'autres choses que j'ai déjà vues ailleurs, et j'ai cherché un peu la patte de ce jeu. Je trouve que parfois, il manque un petit peu, on ne va pas dire d'originalité, mais de son identité propre.
Comment on se démarque, finalement ?
Ouais.
La réponse en image. Elle est là.
Elle est, mais voilà, et malheureusement, alors on en reparlera du physique d'Eve qui avait fait couler beaucoup d'encre. Honnêtement, moi, en y jouant, ça m'a laissé complètement de marbre. Je suis désolée, mais je ne vois pas la polémique. Déjà parce que je la bois de dos tout le temps. Mais j'ai posé la question au créateur du jeu, je lui ai dit, voilà, est-ce que vous comprenez en fait la polémique sur le personnage ? Et là, on se heurte à quelque chose de culturel, en fait, qui est très bien expliqué d'ailleurs sur JV.com, vous avez fait un article là-dessus pour expliquer, qui est très bien aussi. Ce que beaucoup savent, quand on s'intéresse un peu à la culture asiatique, le rapport au physique de la femme, notamment en Corée, n'est pas le même. Là-bas, il y a une quête de la perfection. Je pense que beaucoup ont vu cette image de Miss Corée, l'élection de Miss Corée, où toutes les filles se ressemblent parce qu'elles ont toutes les mêmes chirurgiens.
Exactement.
Et c'est vrai que lui dit, c'est vrai, on a envie de jouer avec des personnages qui sont beaux. Est-ce que vous avez envie de jouer avec des personnages qui sont moches ? Non.
Bah, je crois qu'il y a une école qui dit que, et je le respecte totalement, une volonté d'inclusivité qu'on voit de plus en plus dans les jeux et ça fait plaisir, mais un besoin de représentation. Et c'est là que chacun finalement est différent. Personnellement, moi j'ai un corps de rêve, j'ai pas besoin de m'identifier au personnage. Ça me sort pas en fait du jeu parce que je le prends comme un produit culturel né d'une imagination, nourri par tout un tas de références. Et c'est vrai que le physique d'Eve fait rêver. En plus, il est calibré sur un mannequin
sur un vrai top modèle coréen,
qui est Shin Jae-hoon. Et honnêtement, elle est gaulée de la mort, mais j'ai pas du tout calculé quoi.
Mais non, mais moi non plus. J'ai eu plus de la peine parce qu'elle court en talon aiguille et que je trouve ça hyper galère. Alors, mais depuis Bayonetta déjà. Mais
si on veut être dans le réalisme,
c'est peut-être le seul point pas très réaliste.
Mais sinon, les monstres m'ont tellement effrayée parce que vraiment, ils ressemblent à des utérus ouverts, à des cups menstruels. Ils me terrifient. Et j'ai plus vu ça que finalement.
Je suis assez d'accord. Alors, est-ce que c'est parce que nous sommes des filles? Benjamin.
Ben, franchement, je partage totalement votre opinion. En fait, c'est vrai que le jeu est tellement nerveux, tellement péchu dans ses combats. En fait, on est complètement transporté dans cet univers et on fait pas vraiment attention à ce détail-là. En fait, c'est vraiment une polémique pour moi qui n'avait pas forcément lieu d'être. En fait.
Puis c'est un androïde, donc à partir de là,
oui, c'est ça. Elle peut avoir
physique qu'elle
veut. Mais j'ai une question plus large parce que on avait parlé de Aloy. Quand on avait fait Horizon Forbidden West, alors il y avait encore un problème sur le physique d'Aloy. On parlait de The Last of Us Part 2. Là, c'était Abby qui était trop masculine, c'était pas crédible. Il y a souvent de problèmes sur la représentation du corps féminin. Pas de la femme, hein, j'entends, mais du corps féminin dans les jeux vidéo.
Et de son visage.
De son visage aussi. Mais pourquoi ? On se pose pas la question sur les personnages masculins.
Ah non, jamais. Jamais. De la même manière que si, par exemple, on s'était présenté sur ce plateau pas maquillé, on l'aurait remarqué chez nous, mais pas chez monsieur.
Bah oui, effectivement.
Non, parce mais c'est, que, c'est voilà, malin. Ça fait partie de, un peu du décorum. Personnage féminin dans un jeu vidéo, on va tout de suite commenter son physique, son costume, son corps. Est-ce qu'elle est assez féminine? Est-ce qu'elle ne l'est pas assez? Ça divise énormément les gens. Et c'est vrai que j'ai plutôt tendance à penser qu'on ne se pose pas la question pour Kratos.
Il est quand même torse nu tout le long. Je suis désolée de vous le dire.
Ouais.
Personne ne lui a demandé de se rhabiller.
Personne n'est venu le critiquer la longueur de sa barbe non plus.
C'est clair. Non, mais c'est vrai qu'il y a souvent. Alors, il y a même eu, pour aller encore plus loin, le problème de Peach, Princess Peach dans son jeu à elle, où alors là, son physique avait changé, donc ça ne plaisait pas non plus. Non, ça va loin parfois. Évidemment, celle auquel on pense le plus, c'est Lara Croft.
Forcément.
Lara Croft avait posé. Sur le coup, non. Dans les années 90, moi, j'étais. Quand le jeu est sorti, vous, je ne sais pas, mais moi, j'étais en âge d'y jouer. voilà, ça faisait marrer les gens de l'avoir en mini short, avec des seins triangulaires et
c'était
parce
okay.
que ça changeait.
Oui. C'était ok, mais aussi parce qu'on avait des séries comme Sydney Fox, on avait des... qui est pas beaucoup plus vêtu et qui était canonissime. Et du coup, je pense qu'on se posait pas vraiment cette question. En tout cas, il y avait pas de comparatif. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était la norme. Aujourd'hui, on a des jeux qui sont plus inclusifs, plus réalistes. Tout à l'heure, on citait notamment Aloy. Donc c'est vrai qu'on se dit, attends, on est capable de faire ça. Pourquoi on le fait pas à tous? C'est bien d'avoir de la diversité. Je trouve ça génial d'avoir
dans Stellar Blade. C'est ce que dit le créateur. Voilà, on a le droit d'exprimer tant que ça ne porte pas préjudice
complètement
au personnage. Et c'est vrai que honnêtement, Eve dans Stellar Blade, elle n'est pas rabaissée ou quoi que ce soit par son physique.
Ah non. Au contraire, c'est une vraie héroïne.
Et toutes ses potes, elles sont un peu du même acabit hein, quand même. Hein, dans le...
Elles sont toutes trop belles.
Elles sont toutes canonissimes.
Même quand elles meurent, elles sont là. elles sont canon quoi.
Mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un problème sur les jeux d'action et d'aventure des personnages féminins. On ne se pose jamais le problème sur un Life is Strange ou sur un. Est-ce qu'on n'a pas le droit d'être badass et canon? Est-ce qu'on n'a pas le droit d'être...
Parce qu'encore une fois, il y a une dimension de réalisme, je pense. Est-ce qu'on peut vraiment courir sur une montagne avec des talons?
Non, mais ça, c'est pas réaliste.
Mais
est-ce, qu'on peut être badass, jolie, et mettre des nions à des extraterrestres?
Ah bah oui. Bah oui.
Oui, on peut tout à fait. Hein.
Mais je pense qu'il y a une question à avoir là-dessus, de manière générale, sur la représentation de la femme d'action. Pas de la femme dans le jeu vidéo. Je différencie les deux problèmes. Samus Aran dans Metroid Prime, quand on découvre que c'est une nana, ça ne choque personne. Ça étonne. On se demandait à quoi elle allait ressembler dans le remaster. Voilà, on le sait. Mais elle a une grosse combinaison, donc ça va. Bilan, avant qu'on attaque les jeux, est-ce qu'il faut jouer à Stellar Blade?
Oui, pour moi, en fait, c'était vraiment une bonne surprise. En fait, parce que comme on le disait, peut-être qu'on peut lui reprocher en fait, un côté pas forcément très original en fait dans sa proposition. Moi je trouve que son hybridation en fait c'est une force. Je trouve que le studio Shift Up a réussi en fait à créer un amalgame en fait de toutes ses influences pour en faire en fait quelque chose d'assez unique, assez unique en son genre et de très divertissant surtout en fait. Et il arrive même à nous surprendre des fois en fait, c'est parce que c'est pas seulement un jeu d'action à l'épée en fait, on retrouve aussi des phases qui tirent un peu du côté du survival horror parfois, et c'est assez et c'est assez étonnant de les voir là-dessus.
Donc pour Benjamin c'est oui, pour Marie
c'est oui aussi, parce que la démo à laquelle j'ai pu jouer c'était hyper nerveux, c'est un vrai défouloir honnêtement, c'était ouais, c'était un exutoire, et je trouve ça hyper intéressant d'avoir un jeu qui encore une fois voilà, reprend des influences qu'on connaît bien sans tapisser des lieux communs et qui arrive quand même un petit peu à se démarquer sur plein d'aspects. Moi, j'attends beaucoup, parce que j'ai vu qu'il y avait des joueurs qui avaient poncé
la démo. Il y a des joueurs qui ont passé 50 heures sur la démo. Il y avait des pics de joueurs 600, 700 000, je crois.
C'est incroyable. C'est je me dis, waouh, ok, le jeu va nous offrir énormément de choses, et ça me rend curieuse. Ouais.
Et moi, je vais dans votre sens. Si vous êtes des fans de Nier, moi, je suis un peu moins fan de Nier, donc j'étais un peu moins réceptive, mais je pense que pour les gens qui aiment ce genre de jeu, il y a de quoi faire. L'exploration, en revanche, il y a de quoi faire dedans. Oui. Les combats sont extrêmement nerveux. Ça, ouais. Ceux qui aiment les phases de combat, il y a même des boss où c'est un peu galère, hein, on va pas se mentir. Donc à faire, ça sort le 26 avril sur PS5 exclusivement, évidemment. C'est Stellar Blade. Eh bien, il nous reste quand même un peu de temps, on va pouvoir parler des autres jeux qui sortent, parce qu'il y en a plein. Et on commence tout de suite avec À quoi on joue. Et Benjamin, je te laisse commencer. Parce que tu m'as demandé, Ayuden Chronicles.
Et oui, ça fait.
Android Heroes.
Ça fait déjà pas mal de temps qu'on attend, parce que c'était un projet à la base qui avait été kickstarté en juillet 2020, il me semble, qui avait quand même récolté la somme de 3 millions d'euros. C'est quand même assez fou.
Ah ouais.
On a rapidement vu une sorte de successeur de la saga Suikoden. Et forcément, en fait, parce que c'est le créateur original qui malheureusement nous a quittés. Peu de temps avant la sortie, et on retrouve en fait cette patte Suikoden avec ce gameplay très à l'ancienne au tour par tour où l'on peut recruter jusqu'à 100 héros et où les combats se déroulent à 6 personnages.
Ah ouais.
Et y a ce petit côté aussi c'est pas de la HD 2D, mais en fait des environnements en 3D avec des sprites en 2D sur les personnages qui font un peu penser à cette vibe Octopath Traveler, Triangle Strategy.
Alors c'est ce que je veux dire, moi je connais pas du tout à part de nom Ayuden Chronicles, j'ai trouvé s'il y avait ce côté Octopath Traveler quand même.
Oui, bah c'est une direction artistique qui fonctionne pas mal en ce moment et qui a l'air de plaire pas mal aux joueurs. Et oui, ça ajoute une petite touche à ce côté très ancien avec une technique qui est un peu nouvelle. Et oui, non, on est agréablement surpris. Bon, le jeu apparemment a l'air d'avoir ses défauts, mais sans quoi, ça fait plaisir de revoir un petit peu des jeux de rôle japonais à l'ancienne comme ça. Enfin, une vraie nostalgie qui se dégage de ce projet, et ça fait plaisir à voir.
Donc voilà, Ayuden Chronicles 100 Heroes, c'est disponible partout.
Oui.
Donc, et c'est déjà sorti. Moi, je vais vous parler de mon petit coup de cœur de la semaine. C'est Tales of Kenzera Zao. On en avait déjà parlé dans cette émission rapidement. Mais j'ai passé beaucoup plus d'heures sur le jeu. Et vraiment, c'est un coup de cœur pour sa patte graphique, son sujet très fort qui est une histoire de deuil. S'il y a une vraie question dans le jeu vidéo, c'est comment est-ce qu'on traite le deuil ? Le jeu vidéo étant quelque chose de ludique et divertissant, bah, parler du deuil, c'est compliqué. C'est le premier jeu de Surgeon Studio. Et bah, derrière, mine de rien, on a quelqu'un qui connaît le problème du deuil, qui a eu à affronter le deuil de son père et qui a remis tout ça dans ce jeu. Le jeu, c'est l'histoire de Zuberi, qui est un jeune homme africain dans une ville futuriste d'Afrique qui a perdu son père et hérite quelque part de sa mère, lui remet un livre que son père voulait lui donner, qui est l'histoire de Zao, un jeune chaman dans un pays imaginaire africain. Et donc il y a toute cette phase d'histoire culturelle bantou africaine. En fait, il a mis Abou Salim, il a mis dedans toute sa culture familiale d'Afrique, et on le retrouve visuellement, c'est un jeu hyper lumineux, alors aussi parce que vous allez avoir le masque de la lune et le masque du soleil et des pouvoirs différents qui vont être utilisés, mais dedans, on parle du deuil de ce personnage, le deuil du personnage qui lit l'histoire, et à travers tout ça, bah, c'est le deuil en fait du créateur du jeu, Je trouve que vraiment il y a quelque chose. C'est pas le jeu le plus compliqué. C'est un Metroidvania, voilà, ça revient énormément à la mode, les Metroidvania en 2024. Mais dans la narration, dans l'atmosphère du jeu, il y a vraiment quelque chose que je trouve parfois manque au jeu. Electronic Arts a ce label E-Originals. Franchement, il faut qu'ils le gardent parce qu'ils nous ont dit qu'ils allaient miser à fond sur les Sims, FC, enfin eSports FC maintenant, plus FIFA, et, ou encore Battlefield. Et ils ont besoin de jeux indés. Ouais. Ils ont besoin de petites perles indés comme ça, qui sont des jeux sans prétention. Et mais vraiment hyper intéressant et vraiment touchant.
C'est magnifique. Hein, et au niveau de la bande sonore, c'est cohérent avec...
Oui, l'ambiance sonore, mais elle n'est pas prégnante. C'est-à-dire qu'elle est là vraiment en toile de... Alors, parenthèse, Stellar Blade, la musique, j'en pouvais plus.
Ouais,
la pop en fond, j'en pouvais plus. Là, c'est beaucoup plus... c'est par moment. C'est vraiment une toile de fond. C'est un jeu qui... Alors... Il ne faut pas chercher un jeu avec un gameplay difficile. Ce n'est pas du tout difficile. Il y a des phases où vous faites que vous baladez de droite à gauche. Mais dans l'écriture, dans la présence, dans l'histoire de ce personnage, Zao, qui en fait est un jeune casse-bonbon, pour être aimable, au début, qui veut absolument, en fait, lui, il veut retrouver l'âme de son père. Il veut ressusciter son père, j'ai oublié de le dire comme c'est important. Il veut ressusciter son père et il va s'unir à Kalunga, qui est un peu le dieu de la mort, le dieu du passage entre la vie et la mort. Et il promet de lui retrouver trois esprits qui se sont échappés, dans la forêt et tout autour, et en échange de récupérer l'âme de son père et donc de ressusciter son père. Donc il y a tout ce travail dans la narration sur l'acceptation du deuil en fait. Et comment est-ce qu'on vit ça, comment est-ce qu'on grandit aussi avec ça, et le personnage évolue, on le sent dans la maturité, dans son rapport aux gens. Vraiment c'est un jeu que j'ai trouvé magnifique. Tu avais un peu joué, Benjamin, ou pas ?
Non, pas du tout, mais on a eu l'occasion d'essayer la démo pour JV, justement. Et oui, c'était quelque chose qui ressortait de tout ça, en fait. C'était que on est content, des fois, de voir un gros éditeur en fait, donner sa chance à ce type de jeu, en fait, qui a une approche culturelle en fait, assez atypique. En fait. On n'a pas des jeux de ce calibre-là, on n'en voit pas souvent, et surtout sur des thématiques aussi sensibles. En fait. Au final, ça fait plaisir de voir qu'un gros éditeur donne sa chance à des jeux qui ont aussi une volonté cathartique, en fait. Parce que c'est vrai que c'est une histoire personnelle, touchante. Et
qu'on connaît tous.
Mais oui, voilà, mais en fait, voilà, qu'on sera tous amenés. Et c'est une façon.
C'est un sujet malheureusement qui parle à beaucoup de gens.
Et c'est vrai que dans le traitement du deuil dans le jeu vidéo, il y a ou des jeux type gris qui annoncent la couleur directe, ou What Remains of Edith Finch qui sont clairement voilà le deuil. Voilà comment on en parle dans un jeu vidéo. Et des jeux qui étaient un peu plus ludiques, type Spiritfarer, qui mettent en toile de fond, ou Brothers. On en avait parlé de Brothers, Tales of Two Sons. Qui a ça en toile de fond et on comprend en y jouant. Je trouve que ce jeu-là est à la croisée des chemins, c'est-à-dire que clairement il a annoncé la couleur dès le début, mais on joue. On joue à quelque chose qui est coloré en plus, donc il y a vraiment ce contraste permanent. Donc c'était Tales of Kenzera, c'est ma reco de la semaine. C'est sur PS5, Xbox Series et PC, et même dans le PS5 Plus Extra et Premium, ça dès sa sortie. Alors je voulais vous montrer ça parce que ça me fait marrer.
Wow.
Voilà, ça c'est le masque du soleil dans le jeu. C'est un artiste ghanéen qui a fait ça, alors que je n'écorche pas son nom, qui s'appelle Christopher Niasafo.
Voilà, et de manière officielle ou
Ouais, tout à fait, voilà, c'est le masque du jeu. Magnifique. Donc je vais vous montrer parce que c'est vraiment dans l'ambiance du jeu.
Vous avez prévu tous les accessoires sur le plateau.
Je ne le mettrai pas sur moi. on arrive au bout de cette émission déjà, vous vous rendez compte. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus.
Bon, merci à vous.
Benjamin, on te retrouve sur JVcom.
C'est ça, exactement.
Plein de choses à raconter encore.
Ouais.
C'est un peu chargé quand même.
Un peu chargé en ce moment.
Marie, oui. Écoute, j'étais ravie de t'avoir.
Bah moi aussi, j'étais ravie de venir.
Alors, on peut te retrouver partout.
Alors, tous les mardis sur RTL9 et Action pour parler cinéma, et de temps en temps sur Culture Box, voilà, pour parler de jeux vidéo, justement.
Voilà. Vive le jeu vidéo. Hein, oui, on le dit, oui. Évidemment plaisir. Que même sur les médias grand public, on peut en parler. Merci en tout cas à vous deux d'être venus. Merci à vous tous et toutes d'avoir regardé cette émission. Vous pouvez la retrouver évidemment en replay sur YouTube, en podcast partout, sur le site Tech & Co et évidemment en multidiffusion sur la chaîne Tech & Co. En tout cas, on se retrouve très vite parce qu'il y a plein de sorties de cette semaine dont on n'a pas parlé. Ce sera pour la semaine prochaine et les suivantes. Et puis évidemment, bah, tous les autres jeux qui arrivent. En tout cas, jouez bien et à très vite.
Bye bye.
Bye bye. Thank you.